Il est 8h.
Monsieur Mariani est tout à fait au fait de tout ce qu'il nous faut, donc on l'attend. Et puis, dans moins d'un an, ce sera mieux encore.
Les régionales seront un révélateur. Le Rassemblement national peut-il briser son plafond de verre électoral ? S'interrogeait Nicolas Bétou dans son édito politique à l'instant. En tout cas, en région sud, Marine Le Pen et Thierry Mariani battaient la campagne en terrain conquis hier. Nous verrons aussi ce que peut changer ce scrutin pour les trains régionaux. Les concurrents de la SNCF se font attendre sur les lignes de TER, mais de nouveaux appels d'offres sont en préparation. L'Iran se choisit aujourd'hui un nouveau président, à moins que le choix ne soit devenu évident hier avec 3 désistements de candidats. Et puis le guide Michelin, il décerne aussi des étoiles vertes pour ceux qui défendent une cuisine durable. Rencontre avec un chef cuisinier qui veut recréer de la biodiversité parmi les races de vaches. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À l'avant-veille du premier tour des régionales, quels sont les véritables rapports de force ? Jérôme Fourquet en connaît les dessous et les ressorts. Le directeur du département Opinion à l'IFOP est notre invité. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Combien seront-elles au soir du premier tour dimanche ? Ces régions dans lesquelles le Rassemblement national est en tête. De l'Occitanie à la Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val-de-Loire au Grand Est, les sondages évoquent 6 à 7 régions. On verra dans un quart d'heure ce qu'en dit Jérôme Fourquet. La certitude est pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, ce n'est pas seulement le premier, mais le second tour qui pourrait être favorable au parti de Marine Le Pen.
Et c'est avec ces chiffres d'intention de vote en tête qu'elle est allée soutenir Thierry Mariani hier dans le Var, Frédéric Michel.
Bonjour Marine. Bonjour. Tu as sorti document pour dimanche.
Sur le marché de Sifour-les-Plages, tract à la main, Marine Le Pen et Thierry Mariani déambulent au milieu des étals.
Il faut absolument que tout le monde se mobilise.
En terrain conquis.
On a besoin de vous.
Merci beaucoup. Merci.
Ici comme ailleurs.
Et à dimanche ?
Les gens sont prêts, j'espère. Et de toute façon, on a tout essayé. À Béziers, ça va très bien. À Fréjus, ça se passe très bien. Pourquoi ça se passerait pas ici ?
Tous les sondages et enquêtes d'opinion sont favorables aux candidats de la droite populaire et du RN. L'heure est donc à la mobilisation. Thierry Mariani.
Notre message aux électeurs de cette région, il est simple. Il est de dire que cette fois, votre vote peut tout changer.
Aux dernières élections régionales, Marion Maréchal-Le Pen, alors candidate, était arrivée en seconde position. Aujourd'hui, les sympathisants RN croient l'alternance possible.
Marion avait attaqué, là il faut finaliser. Monsieur Mariani est tout à fait au fait de tout ce qu'il nous faut, donc on l'attend, on les attend. Et puis dans moins d'un an, ce sera mieux encore.
En ligne de mire, évidemment, la présidentielle. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Et si l'on a beaucoup parlé de sécurité ou encore des questions sanitaires pendant cette campagne, l'une des compétences qui mobilise le plus dans la pratique les régions et leur budget, ce sont les transports, notamment les trains du quotidien, les TER. On le sait, les trains de la SNCF s'apprêtent à cohabiter avec ceux d'autres compagnies ferroviaires.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Spécialiste transport d'Europe 1. L'ouverture à la concurrence, on en entend parler depuis longtemps, mais on ne la voit pas venir.
Oui, c'est vrai qu'après la réforme ferroviaire qui avait valu une grève historique de plus de 2 mois en 2018 et la forte volonté affichée par plusieurs régions, eh bien les premiers effets concrets de l'ouverture à la concurrence se font attendre. Le gouvernement avait d'abord tenté avec les lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Résultat, un seul candidat, la SNCF. Et pour le premier appel d'offres en région sud, l'étoile de Nice, là encore, la SNCF serait seule en lice. Une situation qui va évoluer dans les mois qui viennent, selon Arnaud Aimé, spécialiste transport au cabinet SIA Partners, principalement parce que ce processus est long et très réglementé.
Ça prend du temps parce qu'il y a des gros dossiers à constituer et qui doivent être remis aux différents candidats pour expliquer les données de trafic, le chiffre d'affaires passé, les contraintes d'exploitation, etc. Donc c'est des dossiers de milliers de pages. Et puis il y a aussi un aspect tactique, c'est comment l'ensemble d'un marché TER régional, on le découpe en plusieurs lots, puisqu'en général la mise en concurrence se fait lot par lot. Donc on découpe les lignes pour mettre en concurrence chacune d'elles.
Pas certain que le préavis de grève qui vient d'être déposé par la CGT Cheminots pour le 1er juillet prochain soit le meilleur produit d'appel pour inciter les régions à continuer à choisir la SNCF.
Merci Aurélien Fleureau. Emmanuel Macron au Mont-Valérien aujourd'hui pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle il y a 81 ans. Le président sera aux côtés de Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kieffer qui avait débarqué le 6 juin 44 en Normandie, ainsi que par Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération.
8h05 sur Europe 1. Un nouveau développement dans l'affaire Robert Boulin, 42 ans après sa mort.
Oui, sa fille assigne l'État pour faute grave face à ce qu'elle considère comme un manque de travail de la justice. justice sur les conditions du décès de celui qui était ministre du Travail quand on l'a retrouvé en octobre 79 dans un étang de la forêt de Rambouillet. Selon Fabienne Boulin-Burja, l'enquête, rouverte en 2015 pour assassinat et enlèvement, n'avance toujours pas.
J'espérais, il y a 5 ans et demi, quand il y a cette nouvelle plainte qui a été acceptée, que la justice allait se ressaisir et me donner toutes les chances de connaître enfin la vérité sur les causes de la mort de mon père. Bon, il se passe pratiquement rien. On nous dit oui, c'est très bien, c'est très légitime aux demandes, mais on n'y accède pas. Donc ça fait quand même 42 ans, est-ce qu'il faut que j'attende encore 20 ans ? Quand mon père était ministre en exercice, il a été résistant, il a été maire, il a été député pendant 20 ans. C'était un homme droit, hein, bien qu'on essaye de salir pour justifier toujours le suicide. Et donc, il faut que la vérité passe dans le dossier Boulin. Voilà, ça suffit, cette mascarade.
Fabienne Boulin-Burja, jointe par Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe. C'est aujourd'hui que l'Iran et ses 60 millions d'électeurs votent pour un nouveau président qui succédera aux 8 années de mandat d'Hassan Rouhani. Alors hier, dans ce même journal, on parlait de 7 candidats. Il n'en reste plus que 4 après des désistements.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Téhéran, envoyé spécial d'Europe 1 et vous êtes devant un bureau de vote. Ils ont ouvert il y a 3h30 maintenant.
Déjà 3h30 de vote avec une intention pure et divine. C'est la consigne laissée par le guide suprême. Le vote se passe ici dans une mosquée d'un quartier plutôt conservateur et ça correspond parfaitement aux attentes de cette électrice.
Nous avons besoin de nos valeurs traditionnelles et d'une économie plus forte. Pour notre bien, religion et économie doivent se compléter. Aucun de ces deux grands thèmes ne doit être laissé de côté.
Ce qui est laissé de côté, ce sont certains courants, pas de modérer un seul réformateur encore en course après la série de désistements, mais ça ne gêne pas Hassan.
Tous nos problèmes, ils viennent du gouvernement sortant. Il y a beaucoup de critiques contre M. Raisi, beaucoup de critiques, mais je pense qu'il est capable de régler nos problèmes, en particulier nos problèmes avec les autres pays.
Car là est la vraie attente des Iraniens, trouver un moyen de lever les sanctions internationales. Et pour y arriver, là aussi, l'intention doit être pure.
Jean-Sébastien Soldaini en direct de Téhéran pour Europe 1. L'affaire avait agité l'été 2019, la mort par noyade d'un jeune homme de 24 ans à Nantes, Steve Maya Canisso, son corps repêché dans la Loire un mois après sa disparition lors de la fête de la musique. On en parlait dans le journal de 7h. L'analyse de son téléphone montre qu'une opération de police ce soir-là pour disperser les fêtards au bord du fleuve coïncide bien avec le moment où le jeune homme qui ne savait pas nager est tombé à l'eau. Et puis ces nouvelles frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza en réponse à l'envoi d'engins incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël. Il s'agit du deuxième accrochage entre le Hamas et l'armée israélienne depuis le cessez-le-feu d'il y a moins d'un mois.
Vous restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. Du gros rock, oui, un festival métal en visio. Ça va décoiffer quand même, nous promettons. À tout de suite.
Europe Matin.
Petit problème de jingle, c'est pas très grave, c'est pas l'essentiel. Vous êtes sur Europe 1, hein, il est 8h10 et c'est l'heure de la suite du journal avec François Geffrier. Une suite du journal en musique. C'est presque aussi bien que les jingles.
Metallica, vous l'avez reconnu Mathieu, à l'affiche du Hellfest 2022. C'est un événement colossal hein, et le plus grand festival de métal en France. N'était pas peu fier de l'annoncer il y a quelques heures. Ce sera le retour des vrais concerts avec du public dans un an donc. Car pour ce qui est de l'édition 2021, elle commence bel et bien aujourd'hui, mais les fans devront la suivre à la maison, sans visio.
Pour que la puissance du métal soit tout de même au rendez-vous, les concerts ont été enregistrés dans les conditions du live sur le site de Clisson en Loire-Atlantique, dans le plus grand secret. Mais Charles Guyard y était pour Europe 1.
Pour Twiggy, chef de la production au Hellfest, la course contre la montre a pris fin mi-mai. Lorsqu'en pleine crise Covid, les 9 groupes invités ont enfin pu enregistrer leur concert directement sur scène.
Salut Clisson.
Pour les Français, pas de soucis logistiques. Mais pour d'autres, comme les Ukrainiens de Ginger, il a fallu notamment s'isoler une semaine complète avant leur show d'une heure et demie. Cela peut paraître démesuré, mais pour la formation, retrouver la scène valait bien ce sacrifice.
Spending 7 days in quarantine.
Pour nous, effectivement, on a une quarantaine de 7 jours, mais c'est comme des camps de vacances pour voyager...
jusqu'à Clisson. On est arrivé à l'aéroport. Il y a eu quelques papiers administratifs à remplir auprès des ministères étrangers, Ukraine, des ambassades. Pas de problème plus que ça.
Pas de problème non plus de jouer devant personne, même si Laura Cox l'avoue, c'est un peu déstabilisant.
Bon, on était tout seul au milieu de nulle part. C'est plus dur parce que le public, l'énergie te porte. Là, il faut se porter tout seul en fait. Donc je m'imaginais avec le public devant moi en train de passer une bonne soirée.
Un public qui pourra donc voir gratuitement ces 9 shows inédits du 17 au 20 juin sur Arte Concert.
Et puis c'est important de le savoir, il existe une journée mondiale de la gastronomie durable et c'est aujourd'hui.
Oui, et Europe 1 a choisi de vous raconter comment les produits locaux sont en train de supplanter des ingrédients parmi les plus prestigieux à la carte des restaurants, au point que le combat de certains chefs étoilés n'est plus dans l'assiette mais dans le pré. Reportage à Vendôme dans le Loir-et-Cher, Pierre Herbulot.
Dans un pré, à l'ombre d'un arbre fruitier, une petite vache à la robe marron clair, la plus grande fierté du chef Guillaume Foucault.
Alors cette vache, en fait, qui habitait nos territoires, a disparu dans une époque où il y a eu un schéma de sélection qui avait en fait des intérêts qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui, en fait.
La productivité plus que la qualité, un non-sens pour cet amoureux du perche qui s'est fixé une mission, sauver celle que l'on appelait il y a quelques décennies la percheronne.
Je pense que c'est intéressant de pouvoir se dire que notre gastronomie, elle a été ce qu'elle est, certes par rapport au talent des chefs, mais aussi, et on l'oublie peut-être souvent, par la diversité, la grande diversité des terroirs que l'on peut avoir en France et de ses richesses.
Pour faire renaître la race, le chef a mis la main sur de vieilles cartes postales et archives qui décrivent la percheronne. Il a sélectionné les bovins les plus proches physiquement, les a fait s'accoupler tout en les nourrissant avec des pommes et des poires de variété locale. À chaque nouvelle génération de vaches, le code génétique se rapproche un peu plus de celui de la race éteinte. Une démarche aujourd'hui récompensée par la nouvelle étoile verte du guide Michelin, explique son patron Gwendal Poulenec.
Ça peut aller de la valorisation de leur territoire, de leurs producteurs, pêcheurs, maraîchers, éleveurs. Et c'est aussi une occasion de remettre en avant ces découvertes ou ces redécouvertes d'un patrimoine agricole.
En plus de cette distinction, c'est désormais un label que vise le chef Guillaume Foucault, une AOP, voire même une reconnaissance officielle de race. La vitrine d'un terroir qui pourrait même doper le tourisme, comme la célèbre vache de l'Aubrac.
Pierre Herbulot qui ne rate aucune étoile du Michelin sans discrimination de couleur, ni rouge ni vert.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.